Bonjour à vous. Bon dernier jour des pains sans levain. Le titre de mon message aujourd'hui, la vraie motivation pour changer. Dieu nous appelle, il nous révèle des choses en cours de route, et plus on s'applique à faire sa volonté, plus il nous révèle de choses, et plus il nous amène à un autre niveau par rapport à lui, jusqu'au jour où il va nous transformer complètement dans son royaume. Je vous rappelle qu'il a fallu 7 jours à nos ancêtres israélites pour quitter l'Égypte complètement. Eux, par contre, sont sortis physiquement. Et je vous rappelle en passant qu'ils sont sortis de la mer Rouge comme aujourd'hui, au matin du 7e jour des pains sans levain, comme c'est écrit dans la Bible. Mais je reviens là-dessus. Eux sont sortis physiquement. Les nombreux miracles de Dieu, bien sûr, les avaient beaucoup impressionnés. Et c'était des miracles très impressionnants. Mais ça n'avait pas changé leur cœur. Ils n'avaient pas changé intérieurement ce que nous devons faire. Parce que nous, contrairement à eux, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, dans leur cas, très peu de temps après, ils sont retournés à leurs anciennes pratiques. C'est pas longtemps après là qu'ils se sont sculptés un veau d'or et ils ont même dit « Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte ». Incroyable! Il n'y avait pas eu de changement intérieur malgré les grands miracles que Dieu avait fait pour eux. Il y a des leçons pour nous là-dedans. À notre époque, ceux que Dieu appelle à connaître la vérité et à en vivre deviennent quoi? Des Israélites spirituels. Et ce sont des gens de nations différentes de toute la terre. Et ceux qui sont appelés, comme vous et moi, comme les nouvelles personnes qui sont à l'église, comme nos adolescents qui sont dans l'église, peuvent compter sur la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu pour être capable de changer, pas seulement extérieurement, mais pour changer intérieurement. Et c'est ça qui compte, même si nous vivons encore au milieu de l'Égypte moderne. Ça, c'est un travail personnel que chacun des appelés à notre époque doit faire. Et ça se fait pas en un instant. Dieu le sait, on peut pas tout changer d'un seul coup. Ça vient avec le temps. Nous, notre rôle, c'est de persévérer, lutter contre la tendance parfois forte qu'on a à retourner, nous aussi, à nos anciennes pratiques, à retourner aux façons de faire du monde. Écoutez, dans ce monde-là, on est là depuis qu'on est né. On a grandi là-dedans. On a pratiqué le mal sous toutes sortes de formes pendant des années. Alors, ça change pas d'un coup, mais il faut y mettre tout notre cœur. On a acquis des choses dont il faut se débarrasser maintenant d'ici la fin. L'apôtre Paul parle de nos luttes en comparaison avec ce qui est arrivé avec Israël. Et ça nous aide. Allez dans le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10. Vous allez voir comment Paul fait un parallèle ou une comparaison avec ce qui est arrivé aux Israélites à l'époque et nous à notre époque, ce qu'on doit faire. Alors, 1 Corinthiens 10, nous allons lire les versets 1 et 2 pour commencer. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, mais qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » C'était bien sûr un baptême symbolique. Versets 5 et 6. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux, pour les amener là, puisqu'ils périrent dans le désert par après. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons point de mauvais désirs comme ils en ont eu. De mauvais désirs, c'était les mêmes qu'ils avaient en Égypte auparavant. Et nous, nos mauvais désirs qu'on avait à faire des choses contraires aux lois de Dieu, ils sont encore là et il faut les combattre. Allez au verset 11 du même chapitre. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Paul le répète. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est vraiment à nous que ça s'adresse. Alors, il faut tenir compte de ça et se baser là-dessus pour réfléchir à notre comportement et à cette tendance qu'on a de retourner à nos anciennes voies, même sans s'en rendre compte, parfois de façon subtile. Alors, faut être aux aguets. Gardez le verset 13 maintenant. Aucune tentation, aucune épreuve, aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Jamais on peut dire à Dieu, c'est plus fort que ce que je peux supporter. Non, c'est écrit le contraire. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Et pour ça, regardez la promesse merveilleuse qu'il nous donne après. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il est prêt à nous aider pour en sortir. Il veut nous aider. Il faut en être conscient et il faut pas avoir peur de lui demander et redemander et redemander afin que vous puissiez la supporter. Promesse extraordinaire. Est-ce que nous la croyons vraiment? Est-ce que nous avons cette ferme assurance que ce que Dieu dit, il va l'accomplir si on fait notre part et qu'on lui demande? Parce que ça, c'est une vérité absolue sur laquelle on peut compter totalement. Allez à Éphésiens chapitre 3. On voit que Paul va confirmer la même chose dans d'autres mots. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Et on va lire les versets 20 et 21. Ça confirme la même chose. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par son Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Voyez-vous la force de ces paroles-là? Il dit, vous vous adressez, là, quand vous suppliez Dieu de vous aider, vous vous adressez à celui qui peut, par la puissance, par son Saint-Esprit, agir de façon beaucoup plus grande que ce que nous pouvons penser ou imaginez. C'est sur ce Dieu-là que nous pouvons compter. Mais il faut le faire. Il faut lui demander et faire notre part. Et ça, c'est un miracle intérieur constant qui peut se passer dans nous si nous marchons avec Dieu. Chaque jour, en faisant sa volonté au mieux qu'on peut, en lui demandant pardon quand on se trompe et en continuant à travailler pour faire sa volonté et développer son caractère. Et vous savez une chose? Dieu nous aide même si nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Il le sait. Il sait d'où nous sommes partis. Il sait où on est rendu et que nous ne sommes pas encore rendus à terme. Mais lui est prêt à nous aider tout le long si nous, on garde l'attitude de vouloir continuer à changer. Et j'attire votre attention sur un point. Il faut jamais penser qu'on ne pourra pas y arriver. Ne jamais penser l'échec comme étant inévitable, parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Lui, il le sait que nous ne sommes pas encore parfaits. Moi aussi, je le sais. Et je pense que vous le savez que vous n'êtes pas encore parfaits. Mais Dieu travaille avec des êtres imparfaits pour les amener vers la perfection. Et c'est l'esprit des fêtes des pains sans levain que nous célébrons pour continuer de marcher en travaillant à changer. Et aussi longtemps qu'on y travaille, Dieu est avec nous. Allez dans Jean, le chapitre 14. On va voir des promesses encourageantes. L'évangile de Jean, chapitre 14. Jean 14, et on va lire le verset 21. Si vous m'aimez, et à la base de ça, c'est une question d'amour envers Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En même temps, ça définit ce que c'est qu'aimer Dieu. C'est de travailler à vivre selon ses lois, tout simplement. C'est pas compliqué. Jean 15 et le verset 5, juste un peu plus loin. Le Christ nous rappelle que sans lui, on peut rien. Mais l'inverse est heureusement vrai. Grâce à lui, on peut tout. Verset 5 de Jean 15. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Donc, si on reste proche du Christ et qu'on lui demande de lutter en nous, d'occuper l'espace de nos pensées, de nos désirs, de nos rêves, de nos actions, Dieu, Jésus va le faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il le confirme encore et ça confirme l'inverse. « Avec moi, vous pouvez tout faire. » Comme Paul disait, hein, « Je peux tout, par qui? Par celui qui me fortifie. » Absolument. Notre part, elle est essentielle. Allez dans le livre de Deutéronome, au début de la Bible. Deutéronome, le chapitre 4. Et nous allons lire le verset 1. On voit ce que Dieu a dit à Israël à l'époque et ce que Dieu nous dit maintenant. Ça s'applique à nous. Deutéronome 4 et le verset 1. Maintenant, Israël. Ça, c'était Israël physique. Maintenant, Israël spirituel. C'est nous. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Voyez-vous, il ne s'agit pas juste de le savoir. Juste le savoir, c'est comme si je ne le savais pas, si je ne les mets pas en pratique. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et nous, nous attendons d'entrer où? Non pas dans un pays physique, mais dans la famille de Dieu, pour faire partie de son royaume, pour régner sous le Christ et aider les êtres humains. Alors, c'est ce que nous attendons. C'est ça notre terre promise. Regardez le verset 9 du même chapitre. Verset 9, « Seulement, » et là, il nous met en garde. Il dit, « Faites attention, par exemple. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. » Ben, vous, c'est pas juste une journée de temps en temps. Nous n'avons pas une religion d'une journée. Nous avons une religion 7 jours sur 7. 365 jours par année, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Parce que Dieu sait très bien que nous sommes des êtres portés à oublier, à passer à autre chose. Mais dans notre cas, il ne faut pas passer à autre chose. Il faut se rappeler qui est Dieu et tenir et rester attaché à lui et marcher chaque jour avec notre Dieu. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Alors, on doit faire extrêmement attention pour rester connecté au Seigneur, au Christ et au Père. Maintenant, je vais plus loin. Pour être encouragé et pour être motivé vers le but, le grand destin qui nous attend, il faut sans cesse s'en rappeler de ce grand destin-là, y tenir, l'imaginer, le voir, parce qu'il est réel. Et il faut sans cesse aussi se rappeler ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ça, ça nous aide. Quand vous regardez comment Dieu vous a appelé, d'où vous étiez, qui vous étiez à ce moment-là, comment vous avez changé depuis ce temps-là, tout ce qu'il a fait, même pour vous garder en vie jusqu'à aujourd'hui, on voit les miracles qu'il a fait, comme Israël avait vu des miracles extraordinaires dans leur vie. Mais ils n'en ont pas tenu compte. Après, ils ont tout de suite oublié. Nous, il ne faut pas oublier. Et c'est bon de se le rappeler. Même il y a des personnes dans l'Église qui écrivent les miracles que Dieu fait pour eux. Ils écrivent ça dans un livre. Et ils retournent lire ces choses-là pour se rappeler justement ce grand Dieu-là qui leur a accordé toutes ces choses et qui va continuer à le faire s'ils sont fidèles. Il ne faut pas suivre dans ce sens-là l'exemple des Israélites qui ont vite oublié le Dieu puissant qui les avait fait sortir d'Égypte. Allez dans Nombre chapitre 13. On va voir un passage ici qui nous enseigne beaucoup par rapport à ce dont je vous parle aujourd'hui. Ça, c'est le moment où, après la sortie d'Égypte, Dieu allait faire entrer toute la nation dans la terre promise. Et la terre promise, elle était formidable. Elle regorgeait d'abondance et de bien. Vous pourrez lire, je ne vais pas m'y reporter parce que je vais avoir le temps de faire l'ensemble du message, mais vous lirez du verset 17 à 25 de ce chapitre-là. Je vous le décris dans mes mots. C'est le moment où Dieu a dit à Moïse d'envoyer des espions pour identifier le pays, revenir et faire rapport avant qu'ils entrent dans ce pays-là. Mais il y avait des obstacles à franchir quand ils allaient entrer. Alors, les 12 espions sont allés, et vous allez voir dans le chapitre qu'à un moment donné, ils sont arrivés dans la vallée qu'ils appellent la vallée d'Eshkol, et ils ont coupé une grappe de raisin. Et ils ont dû se mettre à deux avec une grosse branche pour porter la grappe de raisin. Ça vous donne une idée de l'abondance qu'il y avait dans la terre promise physique à l'époque. Ça vous donne une idée. C'était quelque chose qu'ils n'avaient sûrement jamais vu. Et là, ça donnait l'ampleur un peu de ce qui les attendait comme bénédiction en termes de terre promise. Et à quelle époque c'était? C'était mi-septembre, avant les fêtes d'automne. Alors, vous vous rappelez, quand vous lisez le contexte, vous allez voir qu'il y a 10 des 12 espions qui ont fait un rapport très négatif. Ils ont dit, il y a des géants, il y a plein de problèmes, les villes sont fortifiées, on ne pourra jamais prendre ça. Pourquoi ils ont parlé de même? Parce qu'ils ont mis les yeux sur les difficultés. Ils ont mis les yeux sur les obstacles à franchir. Et ils ont détourné leur regard du Tout-Puissant qui leur avait dit, je vais vous donner la terre promise et ce qu'il faut pour y entrer. Alors, ils ont regardé les tests, ils ont regardé les épreuves, ils ont regardé les obstacles, ils ont été très négatifs. Ils ont dit, on ne peut pas aller là. Donc, on ne peut pas mettre en pratique la directive de Dieu d'entrer en terre promise. Et ils n'y sont pas entrés non plus. Dieu ne les a pas laissés entrer. Ils sont morts au désert. Ils sont allés 40 ans au désert. Et toute cette génération-là de ces 10 espions est morte au désert. Et il y a deux des espions, vous savez lesquels, Josué et Caleb, qui, eux, ont fait un rapport positif au peuple. Pourquoi ils ont fait un rapport positif alors qu'ils avaient vu les mêmes obstacles, les mêmes géants, puis les mêmes villes fortifiées que les autres? Parce que eux n'ont pas laissé leurs yeux sur ces choses négatives-là, comme nous, on a des choses négatives autour. Ils n'ont pas gardé leurs yeux là-dessus, mais ils ont gardé leurs yeux sur le Tout-Puissant qui leur avait dit, allez explorer le pays, je vais vous le donner après. Vous allez pouvoir entrer par ma puissance. Et regardez, moi, je vais vous lire le verset 3 du chapitre 14. Qu'est-ce que les gens ont dit après qu'ils ont entendu le rapport négatif des 10 espions, qui n'ont pas tenu compte du rapport positif des deux autres? Là, ils ont dit, on veut retourner en Égypte. Ils étaient toujours prêts à retourner en Égypte. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, nous emmener pour nous tuer, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne valait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et regardez l'ironie de ce qui s'est passé. Ces gens-là qui ont refusé d'entrer, à qui Dieu offrait le pays, ils n'y sont pas entrés. Ils sont morts au désert. Mais leurs petits-enfants, ceux qui avaient en bas de 20 ans à l'époque, leurs petits-enfants, eux, au bout du 40 ans, les petits-enfants dont eux disaient, il nous a amenés ici pour faire mourir nos petits-enfants. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait vivre ces petits-enfants-là parce que ce sont eux qui ont entré en terre promise plus tard. Formidable! Ça nous montre en même temps la puissance de Dieu. Avec la puissante aide de Dieu, nous pourrons entrer en terre promise dans la famille de Dieu. C'est une garantie que Dieu nous donne. Même si nous ne sommes pas parfaits, si nous continuons à vivre dans l'esprit de la fête des pains sans levain, Dieu va nous amener à terme. Dieu va nous amener au but. Et dans ce sens-là, les jours des pains sans levain, qu'on a le bonheur de vivre, en fait, c'est un tremplin pour nous, pour continuer à devenir comme Jésus-Christ, à penser comme lui, à agir comme lui, à voir les choses comme lui les voit, et à faire ce qu'il ferait s'il était à notre place. C'est ça, revêtir le Christ. Nous devons, dans ça, apprendre à plaire à Dieu. Il y a une expression que j'aime bien. Apprendre à faire sa joie. Mais oui, c'est pas négatif à ce moment-là, les combats qu'on a à faire pour éliminer le mal. C'est pas pour par peur, là. C'est pour plaire à Dieu, pour faire sa joie. Vous savez, c'est comme des enfants qui veulent plaire à leur père pour, en lui obéissant. Pas par peur, mais pour plaire à leur père. Quand vous avez une famille, il n'y a pas de famille parfaite, mais une famille le moindrement normale et qui a un père aimant, qui mène ses enfants, qui en prend soin, à ce moment-là, les enfants, en réaction, habituellement, veulent plaire à leur père. veulent faire ce que papa a dit. Et c'est ça qu'on doit arriver à vouloir faire. C'est sûr que si on ne le fait pas, il y a des conséquences. Mais si on le fait, il y a des bénédictions. Mais la raison pour laquelle on doit apprendre à le faire, c'est pour faire la joie de notre Père. Et ça, ça rejoint le thème de mon message aujourd'hui. Ça, c'est la vraie motivation pour changer. C'est la motivation efficace pour changer. La motivation enthousiasmante. Dieu veut notre bonheur. Et la crainte de Dieu, on voit que Dieu en parle régulièrement. Il dit « craignez l'Éternel, craignez l'Éternel ». La crainte de Dieu, il y a deux aspects là-dedans. La crainte de Dieu, c'est d'abord le redouter d'une façon. Et ça, quand on le redoute, quand on redoute ce qui peut nous arriver si on le rejette volontairement, c'est une peur physique des résultats, peur des conséquences. Et c'est normal, parce que Dieu est un feu dévorant aussi. Il peut détruire celui qui le rejette après avoir commencé à marcher avec lui et avoir été baptisé et tout ça. Mais le deuxième aspect de la crainte de Dieu, c'est d'aimer Dieu. C'est de l'admirer. C'est de vouloir faire sa joie. C'est par affection. Voyez-vous, c'est pas pareil. Quand on arrive au point qu'on travaille à se purifier, par affection pour notre Père, c'est pas pareil du tout. Ça devient extrêmement positif. Même si Dieu nous oblige à passer par toutes sortes de situations difficiles parfois. Parce que dans tout ça, il est en train de nous apprendre des choses. Et il nous montre certaines faiblesses qu'on n'avait pas vues. Et il veut pas qu'on se décourage. Il dit, ne te décourage pas, ne crains rien, je suis avec toi. J'ai été avec toi depuis le début et je vais t'amener jusqu'à terme si toi, tu continues. Donc Dieu se sert de ces deux aspects-là, de la crainte qui lui est due, dans nos réactions, pour nous amener à lui, pour notre bien. Il se sert de ces deux aspects-là. Craindre Dieu en tant que feu dévorant, craindre les conséquences si nous le rejetons volontairement. Et à ce sujet-là, je vais vous montrer quelque chose. Allez dans Exode, chapitre 20, ça vaut la peine. Exode, chapitre 20. Ça m'a frappé quand j'ai découvert cet aspect-là. Exode, chapitre 20. Et vous allez vous rappeler, en allant à ce chapitre-là, que c'est le chapitre où l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament, Jésus-Christ, a tonné de sa puissante voix de tonnerre les 10 commandements du haut du mont Sinaï. Et les Israélites avaient peur. Regardez le verset 18 à 20 d'Exode 20. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Ça devait être effrayant, mais c'est pas tout. Il voyait les flammes de la montagne fumante. C'était comme un volcan, littéralement, le mont Sinaï. Alors, eux étaient au pied du mont Sinaï. Ils entendaient les tonnerres. Ils voyaient la fumée sortir de la montagne. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle point. Il avait tellement peur. De peur que nous ne mourions. C'était tellement impressionnant. Et on dit, si ça continue, on va mourir. Moïse dit au peuple, et c'est là, dans sa phrase que je veux vous montrer quelque chose de spécial. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça semble contradictoire. Moïse leur dit, ne vous effrayez pas. Après ça, il dit, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux que Dieu est venu. Autrement dit, il dit, n'ayez pas peur, mais ayez peur. Je vous explique. Et c'est intéressant de voir cette nuance-là, et c'est pas une petite nuance. La première fois, quand Moïse dit aux Israélites, « Ne vous effrayez pas », ça veut dire, « N'ayez pas peur, car Dieu ne vous veut pas de mal, même s'il se manifeste de façon aussi intense. N'ayez pas peur qu'il vous veuille du mal, parce qu'il ne vous veut aucun mal. » Mais après, quand il dit plus loin, ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Ça veut dire, ayez peur des conséquences si vous refusez de vivre selon ces lois. si vous refusez de lui obéir, si vous refusez d'emprunter le chemin de l'aimer de façon durable. Alors, ça explique ce qui semble une contradiction au point de départ, mais qui nous donne la dimension du sermon que je vous donne aujourd'hui. La vraie motivation efficace pour changer, c'est par amour pour Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu au point de départ, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aimer le Dieu d'amour incommensurable. Il nous a aimés d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. C'est tellement grand. Et l'aimer dans ce sens-là, c'est travailler à lui obéir, travailler à faire sa joie par affection, par affection. Vous irez voir dans 1 Jean chapitre 4 et le verset 19, 1 Jean chapitre 4 et le verset 19, ça rejoint en principe ce que je suis en train de vous expliquer. Il dit, nous aimons Dieu, nous essayons de mettre en pratique ses lois au mieux possible avec son aide, par affection, parce qu'on apprend à l'aimer à travers ça. Pas par peur, pas par la peur du début, là, même si elle a été là au point de départ, mais par affection. Nous l'aimons, pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier, alors que nous n'étions pas aimables. Dieu mentionne très clairement dans sa Bible qu'il nous a appelés alors que nous étions ses ennemis, alors que nous vivions tous, sans exception, contrairement aux lois de Dieu, à divers degrés, selon les individus, mais nous vivions tous contrairement aux lois de Dieu. Mais il dit, on apprend à l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a tellement aimés qu'on l'apprécie et qu'on veut lui rendre hommage de cette façon-là, en travaillant à lui obéir par affection, comme des enfants reconnaissants envers leur père veulent l'honorer, veulent faire sa joie. Le sacrifice de l'agneau, la Pâque, l'agneau pascal qui a été fait, un sacrifice inouï. On pourrait parler longuement là-dessus, puis on finirait pas de décrire la grandeur de ce sacrifice-là et ce que ça a coûté au Christ lui-même et à son Père. Parce que les deux ont souffert atrocement au moment de ce sacrifice-là. C'est pas possible qu'un père soit indifférent de voir son enfant être torturé, d'avoir accepté d'être torturé volontairement pour d'autres individus. Un père de voir ça, de le voir martyrisé, de voir son sang couler, de le voir être couronné d'épines, battu, torturé, et ensuite de voir que quelqu'un plante une lance dans son côté et à ce moment-là, il décède. Le Père a souffert énormément et le Christ a souffert atrocement. Alors voyez-vous, ce sacrifice-là de l'agneau pascal est tellement grand. Et c'est par ce sacrifice-là qu'on a accès au trône de Dieu pour être pardonné et pour être secouru. C'est la voie d'accès pour ceux que Dieu appelle maintenant et pour ceux que Dieu va appeler d'ici la fin et pour ceux qu'il va appeler dans le monde de demain. Et la célébration de la fête des pains sans levain, c'est notre réponse à nous, à son amour aussi grand. Une réponse joyeuse. Et c'est pour ça que la fête des pains sans levain, c'est une fête joyeuse aussi. Et ça nous fait réaliser qu'on doit continuer avec son aide à rejeter le péché qui a coûté la vie et la souffrance du Christ et qui a coûté la souffrance de notre Père au ciel. Ça nous met en relation spéciale avec eux autres parce qu'on réalise davantage. Allez à Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 1. Notre responsabilité en tant qu'appelés qui découvrons la grandeur du sacrifice qui a été fait pour nous, on voit notre responsabilité de rejeter le péché à tout prix, avec des efforts soutenus. Et regardez Romains 6, verset 1 à 3. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Notre péché a coûté cette souffrance-là du Père et du Fils. Comment est-ce qu'on pourrait continuer à faire des péchés qui ont causé sa mort? Verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est tellement grand. Regardez un peu plus loin, versets 12 et 13 du même chapitre 6 de Romains. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et c'est vrai que le péché a ses convoitises. Il est attirant. S'il nous faisait mal à chaque fois, on n'irait pas. On ne chercherait pas à y aller. C'est parce que ça nous attire. C'est nos convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des sacrifices vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, c'est-à-dire de vivre selon les lois de Dieu pour le temps qu'il nous reste encore avant d'arriver au but. Notre engagement doit être total. C'est pour ça que c'est écrit dans Hébreux 2, verset 3. Vous pourrez aller voir vous-même. Hébreux 2, verset 3. Paul dit ceci. Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Quand on met les choses en perspective comme ça, on voit que notre responsabilité de travailler à éliminer le mal de notre vie, cette responsabilité-là, elle est énorme. Mais on a l'encouragement de Dieu de nous aider, de nous amener à terme. Il faut réaliser l'ampleur de notre responsabilité et réaliser que notre engagement doit être total. Dieu est avec nous. Dieu a tout donné pour nous et a même souffert énormément. Et il va tout faire pour que nous réussissions. Et il va encore nous pardonner quand il va nous arriver malheureusement encore de trébucher, de tomber. Mais dans cela, il faut maintenir le combat contre le péché. Et le Père, ainsi que Jésus-Christ, sont bien-aimés. Les deux continuent de s'impliquer dans votre combat et dans mon combat. Et si nous menons le combat jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à la fin de notre vie, de tout cœur, il va nous arriver ce qui est marqué dans Philippiens 1, verset 6. C'est une promesse extraordinaire. J'aime ça m'y rapporter régulièrement. Ça dit qu'il va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si on est encore en train de se perfectionner de tout notre cœur par amour, par affection pour Dieu, pour lui plaire, pour faire sa joie, à ce moment-là, il va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, pour nous, la motivation là, la plus puissante, puis la plus efficace pour changer et pour vaincre, c'est d'apprendre à y travailler par amour, par affection pour Dieu. Et ça, ça change tout. Parce que c'est pas d'abord pour obtenir quelque chose. C'est en reconnaissance de tout ce que Dieu et son Fils ont fait pour nous personnellement, pour vous et pour moi. On y travaille avec affection, pas pour obtenir quelque chose, mais par amour, par affection, par reconnaissance. Bien que c'est sûr que si on le fait, Dieu nous accorde d'abondantes bénédictions. Et il le fait automatiquement. Dès qu'on fait le geste, qu'on pose les actions, qu'on dispose notre cœur pour faire sa volonté, Dieu nous bénit de toutes sortes de façons. Parfois, il permet certaines épreuves, mais il nous aide à passer à travers. Et à travers ça, il nous apprend des choses. Mais c'est toujours son amour qui est en action dans notre vie, dans toutes circonstances. Allez dans Deutéronome, chapitre 30, s'il vous plaît. On a une indication claire ici du chemin qu'on doit choisir volontairement de suivre avec les bénédictions que Dieu nous promet. Deutéronome chapitre 30, nous allons lire les versets 19 et 20. Ça aussi, c'est un passage que j'aime beaucoup et c'est un passage clé dans la Bible. Moi, je l'ai coloré en jaune. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et ça, Dieu adresse cette phrase-là à chaque être humain qu'il appelle. Et c'est à nous maintenant. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Voyez-vous, il y a une croisée de chemin. Il y a un choix qui est très important et lourd de conséquences. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il veut qu'on soit heureux. Même à travers les difficultés qu'on peut avoir maintenant qu'on ait la paix d'esprit que j'ai vue cette semaine chez les membres à qui j'ai parlé. Choisis la vie. afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu est un Dieu de famille. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Et c'est quoi aimer l'Éternel, notre Dieu? Il le précise tout de suite après. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Quand on s'attache à quelqu'un, il y a un lien fort qui se développe, qui grandit. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et pour l'ancienne nation d'Israël, c'était la promesse de demeurer dans la terre promise. Pour nous, c'est la promesse d'entrer et de demeurer dans la terre promise éternellement, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Et si vous remarquez, ici, Dieu dit pour t'attacher à l'Éternel, pour t'attacher à Dieu. La peur des conséquences, là je fais une nuance, la peur des conséquences du fait de se détourner de Dieu, ça ne suffit pas. Juste la peur physique humaine, ça ne suffit pas. Juste la peur des conséquences négatives, ça ne dure pas. Je vais vous donner des exemples de ça. C'est pour ça qu'il nous faut avoir, ce que je suis en train de vous expliquer dans le message, un motif supérieur, plus grand que ça, qui est plus enthousiasmant que ça. Vous vous rappelez, le 11 septembre 2001, ça vous dit quelque chose? C'est quand les États-Unis ont subi l'attaque terroriste majeure et qu'on a vu les tours jumelles à New York être frappées de plein fouet par des avions et s'effondrer. Qu'est-ce qui est arrivé après? Les gens avaient eu tellement peur qu'ils se sont rués dans les diverses églises les dimanches suivants. Est-ce que les gens ont essayé après ça d'aller plus loin en comprenant ce que Dieu voulait leur signifier par là? Pas du tout. Ça a duré seulement quelques semaines et c'est redevenu tout à fait comme avant. La peur ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un motif supérieur d'aller plus loin. Je vais vous donner mon exemple personnel. Avant d'être dans l'église, disons que je fumais un peu beaucoup même. Je fumais entre 70 et 80 cigarettes par jour. J'allumais souvent avec mon mégot. Ça vous donne une idée. Et mon médecin, qui était aussi un ami personnel, il me disait, Monsieur Brochu, si vous continuez à fumer comme ça, vous ne vivrez pas vieux. Je voyais la conséquence qui pouvait venir là. Et si j'avais continué, je serais mort. Mais il dit, vous vivrez pas vieux. Je voyais la conséquence. Mais cette peur-là m'aidait pas à changer. Je veux pas changer. Je continue à fumer. Mais après ça, Dieu m'a appelé. Dieu a appelé un fumeur. Il appelle toutes sortes de monde. Dieu a appelé un fumeur. Et là, après ça, quand j'ai vu que pour plaire à Dieu, que pour lui être agréable, qu'il fallait que je change cet aspect-là parce que je détruisais ce qui était le temple du Saint-Esprit parce qu'il mettait son esprit avec moi et en moi. Alors, à ce moment-là, là, j'ai fait des efforts pour changer. Et là, j'ai réussi à arrêter de fumer. Quand j'ai eu un motif supérieur, pas juste la peur d'avoir un cancer ou de mourir, mais le désir de plaire à Dieu. Et avec son aide, avec de longs jeûnes, je suis arrivé à réussir d'arrêter de fumer, ce qui n'était pas évident pour un gros fumeur. Je vous donne un autre exemple. Vous pourrez aller voir ça dans Acte 5. Un autre exemple, c'est quand Ananias et son épouse Saphira ont menti aux apôtres, ont menti au Saint-Esprit. Vous lirez ça dans Acte 5. Ils ont apporté la vente d'un terrain et ils ont prétendu qu'ils apportaient tout le montant. Ils n'étaient pas obligés de le donner, le montant. Il aurait pu donner simplement une partie, comme Pierre leur a dit, ça aurait été accepté, ça aurait été bien. Mais là, ils ont menti, ils ont fait croire qu'ils donnaient tout le montant, alors qu'ils ne le donnaient pas. Ils ont été foudroyés, les deux sont morts sur le coup. Et vous lirez le verset 11, c'est écrit ceci. Une grande crainte, une grande peur s'empara de toute l'assemblée, donc de l'Église, et de tous ceux qui ont appris ces choses. Maintenant, je pose la question. Est-ce que cette grande peur-là a suffi à motiver ces gens-là, à tous mettre le cœur à obéir à Dieu et à continuer à le faire? Non, absolument pas. Allez dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, on va voir. Hébreux chapitre 10, c'est Paul qui écrit. Hébreux chapitre 10. On va y arriver. Hébreux chapitre 10. Ici, Paul s'adressait sans doute à plusieurs des personnes qui étaient présentes ou qui avaient entendu parler du fait que Ananias avait été mis à mort par Dieu parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit et aux apôtres sur la vente d'un terrain. Alors, Paul ici s'adresse à des gens d'Église qui ont été probablement témoins de ça ou qui l'ont entendu parler parce que c'était la même époque, là. Hébreux 10, versets 25 à 27. Regardez ce que Paul dit à ces gens-là. Il leur rappelle ceci. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Donc, quelques-uns qui étaient venus à l'Église, mais qui avaient commencé à abandonner l'assemblée. « Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Verset 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » On ne peut pas jouer avec ça. « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Verset 31. « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, qui est un feu dévorant. » Alors voyez-vous, Paul, à qui il s'adresse? Il s'adresse à des gens de l'Église dont beaucoup ont sûrement été témoins ou entendu clairement le récit et ont eu cette peur à ce moment-là de transgresser les lois de Dieu. Mais pas longtemps après, voyez-vous, ils assistent moins aux réunions et ils ont commencé à ramener leurs vieilles coutumes de péché, leurs tendances égyptiennes. Et c'est pour ça qu'il dit, si on pêche après ça, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu en nous, il n'y a plus de sacrifice. Alors, il s'adressait à des gens qui ont eu très peur, puis qui n'ont pas changé vraiment. Donc, la peur ne réussit pas comme l'amour ou comme l'affection va réussir à nous faire changer par rapport à Dieu, avec son aide, avec son aide. Et c'est ça qu'on peut lui demander et qu'on doit lui demander, son amour, son affection en nous, pour qu'on lui rende. Qu'est-ce que Paul nous enseigne ici? Il nous enseigne que la peur humaine, peut-être un bon début dans notre cheminement. Puis je sais qu'il y a plusieurs dans l'Église qui sont venus à l'Église en commençant d'abord par avoir peur. Quand ils ont vu les prophéties, ce qui allait se produire, ils ont eu peur de ce qui allait arriver. Et c'est un élément de motivation de départ. Ça peut être l'étincelle du début. Mais si ça reste là, si c'est seulement la peur de ce qui va arriver, ça n'ira pas loin. Il faut arriver à un autre niveau de ça. Il faut que la personne aille plus loin que ça et en vienne à être motivée par l'amour de Dieu, à faire les choses par amour pour Dieu, par affection pour Dieu, pour vouloir faire des changements continuels dans nos vies. Si nous servons Dieu, motivés seulement par la peur humaine, ce ne sera pas suffisant, comme dans les exemples que je vous ai donnés. Ce ne sera pas suffisant pour tenir solidement quand il y aura des épreuves. Absolument pas. Si notre cheminement spirituel est uniquement basé sur une peur humaine des conséquences, nous allons uniquement chercher à sauver notre peau. Et où ça change toute la dimension au complet. Notre peur humaine physique de Dieu, du début, quand on arrive à l'Église, doit se transformer graduellement. Et ça, on peut le demander à Dieu, qui nous aide à opérer cette transformation-là. Elle doit se transformer graduellement et devenir amour envers Dieu, devenir admiration pour ce qu'est Dieu, pour ce qu'il fait, et désir de faire sa joie. Et ça, c'est le niveau supérieur d'amour que les chrétiens doivent atteindre et qu'on peut atteindre par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est la bonne sorte de peur qui produit les bonnes actions. Pas seulement au niveau physique, mais au niveau spirituel. C'est que ça amène une attitude différente, une attitude de cœur, de plus en plus solide, de plus en plus permanente. Et c'est là que nous devenons l'homme nouveau dont parle la Bible, ou la femme nouvelle dont parle la Bible. Le fils et la fille de Dieu, qui ont de l'admiration, d'affection, d'appréciation pour Dieu, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Et c'est là qu'on compte sur lui. Et c'est là que notre espérance du royaume, elle devient beaucoup plus réelle et elle devient de plus en plus forte. Notre espérance de naître dans la famille de Dieu pour servir Dieu éternellement, pour faire sa joie éternellement et pour servir les autres et pour faire la joie des autres éternellement. Nous ne sommes pas appelés pour nous-mêmes, pour obtenir quelque chose. Nous sommes appelés pour apprendre à servir, à apprécier les choses, en commençant par le sacrifice de Dieu, en commençant par son appel et en le suppliant de nous aider à faire les choses pour les bons motifs et à apprendre à l'aimer par affection, par reconnaissance, pour faire sa joie. Je vais vous donner un cas qui est intéressant à regarder dans ce sens-là, c'est le cas de Job. Allez dans Job, le chapitre 1. Job, chapitre 1, tout juste avant le livre des psaumes, Job, chapitre 1. C'est un cas vraiment intéressant qui illustre le point que je fais aujourd'hui ici. Job, chapitre 1, on va lire le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Donc, il vivait dans l'esprit des pains sans levain. Il se détournait continuellement du mal. Il n'était pas parfait, mais il travaillait à s'en détourner. Même à ce moment-là, dans les épreuves que Dieu a permises, il a appris des choses qu'il devait apprendre. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée, et là je vais revenir sur ce mot-là un peu plus tard, Satan dit à Dieu, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui était à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job craignait Dieu d'une manière désintéressée. C'est pour ça que je reviens à ce mot-là. Satan dit à Dieu, est-ce que tu penses, Dieu, que Job te sert d'une manière désintéressée? Là, Satan s'est trompé. Il n'a pas compris que par l'esprit de Dieu, Job avait appris à servir Dieu et à travailler, à lui obéir de façon désintéressée. Pas d'abord pour obtenir quelque chose, mais par affection envers Dieu, ce qui est beaucoup plus fort. Satan n'a pas compris ça. Il a sous-estimé l'attitude de cœur de Job. Job se comportait par amour, par appréciation, par révérence envers Dieu. Pas par peur de perdre quelque chose. Pas par peur de perdre quelque chose. Je vais plus loin, puis vous allez comprendre. Job a même tout perdu sans broncher dans son attachement à Dieu. Sans broncher dans son attachement à Dieu. Il a tout perdu, il a souffert énormément, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais il n'a pas bronché, il a continué à servir Dieu, à marcher dans ses voies, dans la souffrance, mais par amour pour Dieu, pour faire sa joie. Regardez ce que Job déclare au verset 22, après les premières épreuves que Dieu a permis à Satan de lui infliger. Verset 22 de Job 1. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'était d'une manière désintéressée, par affection, que Job servait Dieu. Fantastique! Quand on voit ça sous cet angle-là, on comprend l'intérieur des choses et comment nous, on doit avoir ces motifs-là en dedans de nous, on doit les développer. Il faut demander à Dieu de nous aider à arriver à ce stade-là. Craindre Dieu, l'aimer, c'est apprécier qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Et en faisant ça et en mettant en pratique ses lois, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une relation de plus en plus proche avec lui et notre confiance envers lui se développe. Et en faisant ça, on accomplit ce que la Bible nous dit de faire, de revêtir le Christ, c'est-à-dire de devenir de plus en plus comme le Christ, qui a toujours servi son Père par affection, par admiration. C'est formidable. On devient comme le Christ en faisant ça. Et d'où nous vient le vrai amour dont nous avons besoin, l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu, le vrai amour qu'on doit avoir pour lui en travaillant à éliminer le mal. On trouve la réponse de ça dans Romains 5 et le verset 5. Je ne m'y reporterai pas, vous pourrez voir plus tard, je vais vous lire ce verset-là. D'où nous vient l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu qu'on doit avoir? L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, le vrai amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez-vous, cette force-là pour admirer Dieu, pour désirer vraiment lui plaire et pour le faire par affection, non pas pour obtenir quelque chose, ça nous vient de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que chaque jour, il nous faut demander à Dieu de nous donner encore de son Saint-Esprit. On en a besoin chaque jour. Et vous remarquerez, quand vous lisez Galates 5, à partir du verset 22, que le premier fruit de l'Esprit qui est mentionné, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, c'est cet amour-là dont on a besoin. On a besoin de le recevoir d'abord par l'Esprit de Dieu pour être capable qu'il nous transforme et qu'on l'exprime à Dieu en travaillant à devenir comme son Fils, comme son premier-né. Et notre demande dans ce sens-là à Dieu, elle doit être insistante, comme je mentionne, elle doit revenir régulièrement. Et on doit demander à Dieu comme David faisait. Vous irez voir psaume 51, verset 12 à 14. Psaume 51, verset 12 et 14, je vous le donne dans mes mots ici. David, alors qu'il se repentait d'un ensemble de fautes horribles qu'il venait de commettre, le prophète est allé vers lui et il a dit, c'est toi cet homme qui a transgressé ces lois-là. David s'est repenti, a regretté amèrement, a demandé à Dieu son aide, comme on doit faire lorsqu'on manque notre coup. David a dit à Dieu, verset 12, Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais que mon cœur de pierre, mon cœur humain de pierre devienne un cœur de chair. Crée en moi un cœur pur à travers les expériences que tu me donnes et par ton esprit. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais que je sois bien disposé à chercher tes voies et à te supplier régulièrement, à rester proche de toi, rester sous ton aile. Il dit après, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que si on continue volontairement à transgresser les lois de Dieu sans travailler à s'en débarrasser, à ce moment-là, Dieu retire le Saint-Esprit qu'il nous a offert, qu'il nous a donné. Et David prend bien soin de dire à Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Rends-moi la joie de ton salut. Parce que d'aller vers la vie éternelle, d'aller vers cette union totale avec toi et avec le Christ, c'est ce à quoi je tiens le plus. Rends-moi la joie de ton salut. Voyez-vous, par sa puissance, si nous faisons notre part, si nous faisons les efforts nécessaires pour changer, il nous donne alors sa motivation par son amour. Il nous donne la motivation dont nous avons absolument besoin pour avancer vers le but avec joie, quelles que soient les circonstances autour et quelles que soient les circonstances de notre vie personnelle, pour que nous arrivions à nous qualifier pour la vie éternelle. Et ça, c'est le but de Dieu en nous appelant, de nous donner un jour la vie éternelle, après qu'il nous aura aidés à traverser tous les obstacles, comme Job dans certains cas, parce que Job a réussi à la fin, et Job sera dans le royaume. Ça sera un de ceux qui participera à la première résurrection. Dieu, vous savez, il est totalement impliqué pour nous aider à réussir. Pas seulement le Père, mais aussi le Fils. Les deux sont impliqués à ce que vous réussissiez et à ce que je réussisse. Ils ont à cœur de nous amener dans le royaume, dans leur famille, avec eux pour toujours. Et c'est pour ça que le Christ a dit dans Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Pour Dieu, c'est comme si c'était fait, parce que lui va respecter sa part du contrat et il a la puissance de nous amener à terme. Si moi, je n'abandonne pas et que je développe de continuer à travailler, à me débarrasser de mes fautes et à développer le caractère du Christ en moi. Et pour ça, Dieu veut que nous gardions les yeux tournés vers le royaume, avec joie, avec assurance, en comptant absolument sur lui. Je vous inviterai à relire si vous l'avez déjà lu, ou à lire pour la première fois si vous n'avez pas lu. C'est un grand encouragement. Notre brochure, votre ultime destinée. Votre ultime destinée. Si vous ne l'avez pas en papier, allez sur le site Internet et vous pouvez la lire en ligne ou la télécharger. Et ça, ça fait partie du fait qu'on garde nos yeux sur ce qui nous attend. Ça devient une motivation d'admirer Dieu et de vouloir faire sa joie en marchant dans ses voies. Maintenant, en terminant le sermon aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais que j'ai trouvé tellement savoureux que j'ai traduit cette partie-là d'un article pour vous le lire en terminant le sermon d'aujourd'hui. C'est un article de M. Wallace Smith qui est paru dans le Living Church News de mars-avril 2020. Le titre en français, c'est « Ce que la Pâque nous enseigne par rapport au jour des pains sans levain ». L'article sera sans doute traduit plus tard. Ça décrit de façon superbe l'expérience que M. Wallace Smith a vécue avec un de ses fils qui avait 3 ans à ce moment-là. Ça remonte à une vingtaine d'années. M. Smith a 4 ou 5 fils, je pense, qui sont rendus dans l'adolescence avancée maintenant. Alors, j'ai traduit ce petit bout-là de l'article, puis je l'ai adapté pour vous, pour m'en servir comme conclusion de ce message d'aujourd'hui, parce que ça illustre très bien le point que je veux faire aujourd'hui dans le message et le thème que j'ai traité. Et c'est un enseignement en même temps qui est tellement encourageant pour nous afin que nous continuions la lutte pour arriver au but. Alors, je vous cite cette partie de l'article. Je conclurai cet article, écrit M. Smith, en partageant un souvenir qui m'a beaucoup appris. Il représente quelque chose d'important à garder à l'esprit en cette merveilleuse saison de la fête des pains sans levain. Il y a une bonne vingtaine d'années, ma petite famille et moi étions à Waco, Texas, pour rendre visite à la tante de ma femme, Monsieur Smith, du Texas. Un de mes fils, âgé d'environ 3 ans à l'époque, essayait désespérément de pédaler avec son petit tricycle sur une pelouse herbeuse, il y avait des grandes herbes, jusqu'à la section pavée, essayait de se rendre là. Mais il n'arrivait à rien. Vraiment, il ne pouvait même pas avancer d'un seul millimètre. L'herbe était un obstacle trop grand pour lui, pour ses petits muscles qu'il n'était tout simplement pas à la hauteur de pouvoir faire fonctionner assez pour réussir. Quand je l'ai vu, frustré, pleurer et vouloir abandonner, je lui ai dit que je serais heureux de l'aider à tirer son tricycle jusque sur la surface dure, où il pourrait facilement le conduire à sa guise. Il n'était pas d'accord. Il voulait le faire tout seul, lui-même, comme les petits-enfants veulent faire de temps en temps. Et il a alors continué à être frustré et à pleurer. Cela m'a semblé un bon moment pour l'aider à former du caractère. Alors, je lui ai proposé un marché. Je ne voulais pas qu'il abandonne. Je lui ai dit que je le pousserais jusqu'à la section pavée à une condition. Il devait continuer à pédaler. Je lui ai dit que je lui garantissais qu'il arriverait jusqu'à la section pavée s'il n'arrêtait pas de pousser sur les pédales pour avancer, pour s'aider à avancer. Il a accepté. Alors nous sommes partis. Il a continué à faire des efforts et à pousser sur les pédales. Ça allait bien. J'étais derrière lui, poussant le tricycle vers l'avant. Il bougeait, ça avançait. Alors qu'auparavant, il n'allait nulle part par ses propres moyens. Maintenant, il faisait des progrès réguliers grâce à la puissance de papa. J'aime ça la façon dont il dit, grâce à la puissance de papa. Et c'est la même chose pour nous envers Dieu, là. Après que nous ayons parcouru un peu de terrain de cette façon, il a tout simplement levé les pieds et il a cessé de pédaler. Il semblait penser qu'il n'avait plus rien à faire, sinon profiter d'un tour gratuit où il n'avait pas d'effort à faire. Alors, j'ai arrêté de pousser. Ce n'était pas du tout le but de lui donner un tour gratuit. Dans cette expérience, pour qu'il puisse développer sa personnalité, il fallait qu'il réalise qu'il devait continuer à faire des efforts personnels avec mon aide. Il a compris le principe. Il a recommencé à appuyer et à pousser sur les pédales. De mon côté, j'ai aussitôt recommencé à pousser, comme Dieu fait avec nous quand on cherche son aide. Aussi vite, l'objectif a été atteint. Le tricycle était sorti des hautes herbes et se trouvait sur la surface lisse et dure. Il a alors pédalé tout seul avec plaisir. Mon aide n'était plus nécessaire. Aurait-il pu réussir à atteindre seul la section pavée? Non. Dans l'herbe, il n'avait même pas pu faire bouger le tricycle tout seul. C'était moi qui agissais en arrière-scène. Le pouvoir de papa. S'il n'avait pas été prêt à se battre par lui-même, à persévérer, à faire sa part d'effort, je ne l'aurais pas poussé parce que je voulais l'aider à développer sa personnalité. Si je lui ai donné la force et la puissance nécessaires pour faire le travail, il avait aussi un rôle à jouer, car mon but ultime n'était pas de réussir un tour de tricycle. Mon but était de construire un peu de caractère chez un fils que j'aimais. Et c'est ce que Dieu fait avec vous et avec moi. La leçon que j'ai moi-même apprise est une leçon que j'espère ne jamais oublier. Lorsque nous pédalons vers le royaume de Dieu, nous devons faire très attention de ne pas nous mettre à croire bêtement à notre propre pouvoir. Je répète, on ne doit pas se mettre à croire bêtement à notre propre pouvoir. Sinon, nous mourrons dans l'herbe. Et, chose tout aussi importante, nous ne devons pas nous permettre de lever les pieds en espérant un tour gratuit, sans effort à faire. Sinon, nous mourrons aussi. Nous ne devons pas aller à l'encontre du but pour lequel notre Père nous fait pédaler. Il nous demande de faire des efforts et de continuer. Pourquoi? Pour que nous participions avec son aide à la construction de son caractère en nous, ses enfants qu'il aime tendrement. Il veut nous amener au but. Il le désire passionnément, mais nous devons continuer à pédaler. Alors que nous célébrons les jours des pains sans levain, pédaler. Mais n'oubliez pas qui vous pousse. Réconfortez-vous en sachant que votre Père vous aime plus que vous ne pourriez jamais le comprendre et qu'il vous amènera jusqu'au but final si vous continuez à pédaler. Il y a de grandes leçons à tirer de la Pâque en rapport avec la vie éternelle que nous désirons chèrement. La Pâque nous rappelle l'amour incommensurable avec lequel Dieu désire nous envelopper pour toute l'éternité. Une existence sans fin où nous serons entourés intimement pour toujours de cet amour, de ce réconfort et de cet encouragement divin. Notre Père Tout-Puissant et son Fils ont tout fait et continuent de tout faire ce qui est en leur pouvoir pour nous amener au but de la vie éternelle en leur présence. Fin de la citation. C'était superbe comme description. C'est pour ça que je tenais à vous le donner dans le contexte du message d'aujourd'hui, comme de quoi on doit avoir des motifs supérieurs de travailler à nous purifier pour faire la joie de Dieu, par affection pour lui. La vraie motivation pour changer, c'est de chercher à faire la joie de notre Père, à lui plaire. Et la vraie capacité de le faire vient totalement et uniquement de son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient en toute chose au nom de son bien-aimé.